La circulation présentée par Quartier-Quartier. Des unités lumineuses à air ouverte près de toutes les commodités. Disponibles pour visite dès maintenant. Quartier-Quartier.ca.
Gravel. Dans le retour.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Parfait pour vous raccompagner à la maison.
Boulevard 102.1.
Vous écoutez Gravel dans le retour.
h 06, Jelly Roll, Halfway to Hell. Votez pour vos tunes préférées, blvd.fm, également avec l'application Boulevard. On est pas mal dans les 24 dernières heures des chansons qui sont présentement sur le radar. Vous décidez de leur sort. Sur l'Instagram de Boulevard, on vous pose les questions. Vous pouvez également passer par les moyens habituels, mais il y a un comité musical cette semaine. Ça veut dire que d'ici la fin de la semaine, on va avoir une batch de nouveautés toutes fraîches à vous proposer. Prenez de l'avance. Habituellement, assez rapidement, on les retrouve sur la page 1 du BLVD.fm. C'est fébrile. Dans un peu moins de 2 heures, on sera finalement au spectacle de Papa Roach. Les soundchecks se sont bien déroulés dans le courant de l'après-midi. On a parlé à un Reg fébrile dans la dernière demi-heure.
Vous n'étiez pas avec nous autres. Vous dites, ben là, arrêtez de nous en parler. Nous autres, on ne peut pas être là sur le Facebook de Boulevard 102.1, sur la chaîne YouTube de Boulevard 102.1. Il y aura diffusion en direct pour que vous puissiez suivre cette soirée pas mal exclusive.
C'est pas mal, hein? Le lien est partout, là. Dans toutes les stories, les posts. Si vous allez sur n'importe quel média social de Boulevard en ce moment, vous ne pouvez pas être plus redirigé à la bonne place que
si
ça.
Si vous
là.
Le trouvez pas, il y a un petit peu de mauvaise volonté.
Plus que ça, on l'avait tatoué sur le corps. Hey, 17h08 dans la circulation, Audrey.
Si vous êtes sur la Capitale-Ouest en ce moment, il y a fermeture de la Capitale-Ouest entre boulevard Pierre-Bertrand et Saint-Jacques. Un remorquage d'accident en cours. Il y a un détour qui se fait par la voie de desserte, donc Capitale dans les deux directions. Très difficile au moment où on se parle. L'entrée du pont Pierre-Laporte est encore congestionnée. La 20 direction ouest entre la route du président Kennedy et Taniata, toujours au ralenti. Direction est, c'est entre Taniata et Chemin des Îles que ça se passe. Évidemment, quoi que ce soit d'autre, 88-971-1021. Texto.
Vous êtes très nombreux à adorer ces chroniques et je pense que vous êtes très nombreux à vouloir qu'on la garde ici à Boulevard 102.1. Donc maintenant, soyez rassurés, elle va travailler dans un environnement protégé. Judith Demeul, journaliste judiciaire au Soleil. Salut Judith.
Allô.
Ils vont vous installer des gates au Palais de justice.
Oui, qui l'eût cru?
Hey, ça reprend un événement tragique alors que ça fait super longtemps que c'est demandé.
Même à ça, on pensait pas qu'on allait finalement les avoir, donc très, très content.
Oui, parce qu'on s'en était parlé ensemble, la première réaction à l'époque, autant du ministre de la Justice que de François Bonnardel du côté de la Sécurité publique, parce que suite à l'événement à Longueuil où un interprète judiciaire s'était fait attaquer par quelqu'un qui avait réussi à rentrer une arme dans le palais de justice, ça avait été « Ah, mais c'est un incident isolé. » Oui, mais tu sais, à un moment donné, il faut peut-être aller dans la prévention plutôt qu'attendre des drames. Fait que finalement, c'est quoi? C'est à l'automne prochain, dans le fond, par la justice de Québec?
Québec, ça devrait être cette année. Donc, j'ai bien hâte de vous en reparler.
Est-ce que ça va vous compliquer la vie, vous autres? Ou...
On le sait pas encore, les détails de ça. T'sais, les journalistes, on n'est pas des vrais employés du palais de justice. Là, on est des invités, donc à savoir si on va être... On va passer par en avant comme tout le monde.
De toute façon, vous autres, vous êtes tous à la plume puis au papier encore. Là. Vous n'aurez pas ces problèmes-là. Non? Ça a changé? OK, c'est bon. C'était le même dans mon temps. qu'est-ce que tu as vu de plus violent dans un palais de justice? As-tu déjà vu du monde se battre, se pousser? Es-tu allé plus loin que ça?
Des détenus qui se désorganisent. T'sais, mais il était dans un box des détenus avec les fenêtres. Là. Il y avait une salle qui était prévue pour ça, puis très désorganisée, là, de sorte que les agents correctionnels sont sortis, sont revenus avec les équipements anti-émeute.
Ah ouais.
Oh, OK. C'est parce que quand on dit ici, Audrey se désorganise, elle fait juste manger du chocolat puis parler vite.
Oui, non, mais c'est une autre sorte de désorganisation.
C'est pas la même chose.
Non.
une désorganisation plus violente. Là. T'sais, c'est des coups de tête qui peuvent partir vraiment vite. Hein? Il était 4-1, puis il était très, très agressif, il vargeait dans l'espèce de mur là, qui sépare eux de la salle. Puis dans ce temps-là, les constables peuvent pas aller au bord, les agents peuvent pas aller dans la salle d'audience. Donc c'est un peu de regarder les agents correctionnels se débrouiller avec ce qu'ils ont de l'autre côté, puis les constables
peuvent pas intervenir
s'ils passent
mais
pas.
Bien, c'est bien niaiseux.
Des affaires de syndicat.
Encore.
Bon.
Judith, on va parler de l'histoire d'Éric Guénette que tu nous avais racontée dans les dernières semaines. Finalement, le jury a tranché.
Oui. Ça, c'est le meurtre d'Ashraf Timoumi qui est arrivé en août 2022. Là, c'est le jeune Marocain qui était venu faire une livraison de drogue à Québec, puis il s'est fait descendre de 6 projectiles.
Secteur Stoneham.
Voilà. Mm-hmm. C'est Kevin Prévost-Bouchard qui avait tiré avec l'arme à feu. Là, lui, son cas a été réglé au mois de mars dernier. Il a été déclaré coupable de meurtre non prémédité, puis il a eu 17 ans avant de demander une libération là, de sa prison à perpétuité. Il y avait quelqu'un dans le char avec lui. C'était Éric Guénette. Lui aussi est accusé de meurtre.
Même s'il n'a pas tiré.
Même s'il n'a pas tiré. Parce que c'est par complicité, c'est par aveuglement volontaire. Il l'a quand même conduit.
Puis il l'a ramené aussi. Là, puis il l'a ramené,
il a gardé son secret. Puis il savait qu'il avait une arme à feu. Donc là, c'était de savoir si lui aussi était coupable du meurtre de ce jeune de 20 ans-là ou s'il ne l'était pas. Puis c'était un peu... Peut-être utopique de penser qu'il allait être acquitté, là, parce que même si, OK, il n'a pas tiré, il était quand même impliqué dans des affaires de trafiquants de drogue quand même élevées.
T'sais, si, mettons, suite à ces événements-là, il avait été le premier à contacter les policiers pour dénoncer l'individu qui, lui... ça aurait été une toute autre histoire.
Puis, finalement, il est reconnu coupable d'homicide involontaire. Souvent, là, quand on a des situations comme ça, là, où c'est vraiment pas noir et blanc, le juge ouvre le verdict qu'on appelle. Là, donc, il pouvait soit être acquitté, soit être coupable de meurtre deuxième, ou soit là, aller entre les deux et être coupable d'homicide involontaire. Et c'est ce que le juge a choisi.
Quand on parle d'homicide involontaire dans un cas comme celui-là, on dit c'est pas lui qui a tiré, mais il a rien fait pour empêcher le crime de se dérouler, puis il a rien fait pour dénoncer après.
Il était là.
Ouais,
il était là, il a rien fait pour l'empêcher, puis il a rien fait après non plus. Là. Lui dit qu'il a rien fait parce qu'il vivait dans la peur, parce que Kevin Prévost-Bouchard est un homme très dangereux, avec plusieurs contacts, qui est dans les gangs de rue, donc il avait peur pour sa vie. Mais on a appris pendant le procès que pendant que Kevin Prévost-Bouchard était arrêté, parce qu'il a été arrêté dans d'autres affaires. C'est bien compliqué, l'affaire. Puis, il continue à faire des jobs pour lui. Là.
De toute manière, fait que la peur, on repassera. Là.
Ben, c'est ce que le jury avait à déterminer.
Okay. En lisant ton texte, on a été un peu surpris parce qu'on a failli faire tomber le procès. Un des avocats qui a mentionné dans ses plaidoiries à la fin, là, un élément qui avait été mentionné hors jury puis qui était sous ordonnance de non-publication, c'est ça que je comprends?
Nous, on avait même plein de choses à respecter pendant ce procès-là, là, comme le dossier de Kevin Prévost-Bouchard. On l'avait largement couvert, on avait tout écrit là-dessus, les détails, puis on pouvait même pas les rappeler. Parce qu'on avait décidé de ne pas informer le jury sur ces éléments-là pour pas que ce soit influencé dans la culpabilité d'Éric Guénette, parce qu'on parlait de lui et pas de son complice. Donc, oui, on a été assez surpris pendant les plaidoiries de voir l'avocat de défense parler des choses que nous-mêmes n'avions pas le droit d'écrire. Là. Donc, oui, il s'est un peu emporté.
Est-ce que c'était calculé ou en se disant ça va jouer en ma faveur? Ou, parce qu'il y avait quand même un risque.
Faudrait lui demander. Okay. Lui, il maintient qu'il n'a rien inventé, qu'il a juste voulu bien informer le jury, puis qu'il n'y avait pas de faute. De l'autre côté, on disait autre chose. Donc, ça a retardé la fin du procès d'au moins une journée et demie.
Okay.
À partir du moment où il est déclaré coupable d'homicide involontaire, le jeu de la peine est quand même assez large.
Oui,
là.
C'est tellement différent parce que homicide involontaire, il n'y a pas de peine minimale, puis il n'y a pas de peine maximale. En fait, il a échappé automatiquement à la prison à perpétuité, mais on pourrait la lui donner au final, là, mais on verra. Là.
Le juge peut aller à peu près n'importe où à partir de là.
Parce que chaque homicide involontaire est différent. Mm-hmm. C'est tellement large que...
Fait
que
techniquement, c'est plus le juge qui va se retrouver à évaluer le niveau de culpabilité de l'accusé,
avec
à savoir est-ce qu'il savait ce qu'il s'en allait faire, est-ce qu'il est resté complice, est-ce que ce gars-là était terrorisé ou c'est juste quelqu'un
Et c'est surtout, qu'est-ce que sa participation là-dedans mérite comme peine? Donc, ça va être super intéressant de voir parce que quand tu t'es déclaré coupable de meurtre au deuxième degré, par exemple, tu peux jouer entre 10 ans et 25 pour la possibilité de libération. Quand c'est meurtre premier, tu as 25 automatique. Ouais. Donc, lui, il est vraiment de zéro à infini. Donc, c'est vraiment un exercice là, de jugement assez difficile.
Ça a été quoi sa réaction à lui? Parce que là, il est reconnu coupable d'un chef d'accusation. Il évite le pire, mais en même temps, il n'est pas sûr. Étais-tu content?
Il était content. Il était satisfait. Il a fait un pouce là, vers le haut à son père.
Son père était là.
Son père était là. être très stressé là, avant. Puis il l'a dit souvent, Éric Guénette, pendant son procès, il sait qu'il a fait des choses illégales. Là. Le gars n'était pas sans problème. Là. Il y avait beaucoup de consommation aussi au travers. Donc, il voulait juste pas être un meurtrier. Il voulait pas avoir cette accusation-là, la même que Kevin Prévost-Bouchard, qui lui a tiré. Donc, je pense que c'était une question d'avoir moins pire.
Autre dossier que tu as suivi au palais de justice et qui retient l'attention, je veux pas faire une mauvaise parodie de la pub de la SAQ, mais un adulte, ça couche pas avec une fille de 13 ans. Même pour une vapoteuse.
C'est un très bon rappel, parce qu'il y en a qui semblent l'oublier. L'âge de consentement au Canada, c'est 16 ans. Maxime, Laterrière Fugère a été reconnu coupable de contact sexuel. Service sexuel moyennant rétribution et leur informatique. Il a couché avec une fille de 13 ans en échange d'une vapoteuse. C'est la petite qui l'a approchée. C'est la victime dont je vous avais parlé il y a quelques semaines là, qui s'était désorganisée en salle de cours en le voyant. Donc, ça s'est fini vendredi dernier.
Puis lui, à quel âge, excuse-moi?
35. Il y avait 35 au moment des faits, il y a 37 aujourd'hui. Puis... Elle l'a approchée. Elle avait 13 ans. Elle lui a écrit. Elle voulait une vapoteuse. Elle ne pouvait pas se l'acheter. Donc, elle a demandé à lui de lui en acheter une. Puis, elle a offert des services sexuels en échange. Puis, avant de juger cette fille-là de 13 ans, là, à 13 ans, là, on n'a peut-être pas le cerveau en complètement formé.
Il y a une raison pourquoi l'âge du consentement, c'est pas 13 ans.
Oui, exactement.
Les adultes doivent agir en adultes puis s'assurer que les enfants soient protégés, même s'ils agissent encore comme des enfants.
Protégés même d'eux-mêmes. À 13 ans, on a un petit peu le droit de faire des erreurs.
Comment ces deux personnes-là se connaissaient avant d'aller plus loin?
L'histoire ne le dit pas. On n'est pas allé là. Puis lui, il a plaidé coupable, je le rappelle. Puis là, c'était vraiment les représentations sur la peine. Puis lui maintient que c'était pas une vraie agression sexuelle vu qu'il y avait du consentement parce qu'il voulait. Puis c'est elle qui l'a quasiment forcé. Là. Je mets des guillemets. Là. Monsieur s'est jamais plaint. Là. Monsieur a même accepté deux fois plutôt qu'une. Puis il s'en allait pour une troisième fois. Mais là, c'était un agent de la police qui était là pour le recevoir parce que la petite, entre-temps, avait réalisé que ça la traumatisait plus que d'autres choses, ces événements-là. Puis la procureure de la poursuite s'est vraiment fâchée. Je dirais fâchée parce que, c'est ça, l'avocat de défense disait que c'était pas une agression sexuelle complète, étant donné qu'elle voulait. Puis là, on est obligé de rappeler, là...
C'était quoi la définition des agressions sexuelles puis du consentement?
À 13 ans, là, si tu couches avec quelqu'un qui est plus de 2 ans ton aîné, c'est criminel. Peu importe le contexte, peu importe si c'est en amour, peu importe si c'est elle qui voulait, c'est une infraction criminelle.
Au sens de la loi.
Fait qu'une petite fille de 13 ans qui a un petit chum de 16 ans, lui, ça passe pas pendant tout, là.
Je veux
pas... De façon légale.
Voilà. Puis on repassera. Puis quand t'as 14 ou 15, c'est 5 ans.
Je ne savais pas, ça.
Donc, informez-vous si vous doutez, parce que vous pourriez vous ramasser dans la même situation.
Mais lui,
que,
parce qu'il y avait même pas, on n'est même pas dans la zone grise.
Ouais, non, puis c'est une drôle de...
Il avait 20
de...
ans de plus qu'elle. Donc, on est ailleurs. Lui dit dans ce, ben, a dit à l'agent de probation qui a fait son rapport en l'analysant qu'il voulait vivre une expérience, qu'il vivait une période un peu creuse et que il avait besoin de satisfaire sa libido. En tout cas,
là, de ce que je comprends, la première agression sexuelle, c'était pour une vapoteuse. La deuxième, c'était pour des cartouches.
C'est pour les capsules qui viennent avec.
Tabarnouche.
Parce qu'à 13 ans, elle ne peut pas les acheter elle-même.
Je suis contente que sa photo soit partout, lui.
Tu lui as parlé à la victime?
Oui, je lui ai parlé à la
sortie. Là, elle est encore mineure.
Oui, là, elle a 15 ans.
15 ans, oui.
Puis je lui ai parlé, puis vu que je suis là depuis le début, elle me reconnaissait, puis la procureure l'avait averti que j'étais journaliste. Puis elle était très fière de s'être rendue jusqu'au bout. Là, vous vous rappelez, elle s'était énormément désorganisée, elle avait une grosse crise de panique en salle d'audience, puis elle restait là jusqu'à la fin, même quand l'avocat de défense lui disait en pleine face que c'était pas une vraie agression sexuelle. Donc j'ai tenu à la féliciter pour son courage, puis elle m'a dit qu'elle espérait que peut-être son histoire puisse... ouvrir les yeux à d'autres personnes de son âge puis à rappeler à tout le monde c'est quoi le consentement parce que pas tout le monde qui est au courant. Là.
Est-ce qu'elle était soutenue dans sa démarche? Ses parents étaient là?
Sa mère était là. Okay. L'enquêteuse de la police de Québec est restée avec elle aussi tout le temps. Il y avait aussi une intervenante du CAVAC.
Hey, ça demande énormément de courage, sachant très bien. C'était sûr, là, c'était écrit dans le ciel que du côté de la défense, il allait essayer de la faire sentir coupable de tout ça. Là.
Mais c'est tout le temps ça, là. C'est un peu leur job de remettre en doute tout ce qui s'est passé. C'est dégueulasse pour une victime. Là.
Les avocats de défense ont chacun leur technique.
Il y en a des plus crotés que d'autres. C'est mon terme. Ça me met pas dans la bouche. C'est moi qui le choisis.
Je peux répondre à cette question-là, votre honneur? Oui. Oui, il y en a des pires que d'autres, effectivement. Hey, dans les choses à surveiller cette semaine, il y a une histoire de chien pour faire brailler Audrey?
Oui, Audrey aime tellement ça, ce sujet-là. Je vais être obligée d'en revenir pour en parler avec elle. Ça va être le jugement là, si tout se déroule bien dans Expédition Milou.
Ça, c'est à l'île d'Orléans. C'est les d'Orléans, chiens qu'on s'est chenil. Rendu compte. Chenil, des chiens morts, des chiens castrés, pas selon les règles de l'art.
Les propriétaires on leur reproche d'avoir tué des centaines de chiots là, parce qu'ils ne géraient pas leur naissance, entre autres. Ça, c'est quand ils les étranglaient pas. Oui, congelés, étranglés, tirés à fusil.
La grosse classe.
Ah, génial.
Tu vas passer une belle semaine.
Tout le temps des belles semaines au Palais de Justice.
Judith, merci beaucoup. Vous pouvez lire les textes de Judith Demeul, évidemment, sur le site du Soleil. On retrouve le dossier Guénette et aussi l'histoire de la vapoteuse et du consentement. 17h22, un classique de Blur. On écoute Song 2 à Boulevard 102.1. Ce soir, vous pouvez regarder le show de Papa Roach en direct sur le Facebook de Boulevard et aussi sur la chaîne YouTube de Boulevard, ce qui vous fait dire... Wouhou!